Bonjour Lily Plourde.
Bonjour.
Je trouve ça très beau comme nom, Lily Plourde. Je trouve que ça fait joli, ça fait souriant. Vous êtes directrice générale de Autisme Québec. Est-ce qu'Autisme Québec, dans ce cas-ci, c'est la ville ou la province?
C'est la ville.
D'accord. Je m'en vais tout de suite à ma dernière question parce que je me souviens, c'est la question que j'ai ajoutée qui avait suscité mon intérêt pour l'entrevue, à savoir la réalisation que des personnes avec un TSA se retrouvent dans une ressource qui n'est pas toujours appropriée comme des ressources pour les personnes ayant une déficience intellectuelle. Et apparemment que de plus en plus, puisqu'on est en manque de maisons de répit pour les adultes avec un TSA, on est obligé d'y combiner justement. Et à quel point c'est répandu?
En fait, c'est pas nouveau.
Ah non, OK.
Ça a toujours été. Historiquement, les résidences sont basées sur des modèles pour les personnes avec une déficience intellectuelle. Quand les centres de réadaptation en déficience intellectuelle ont pris le mandat des personnes autistes, les modèles résidentiels sont restés un peu les mêmes.
OK.
Donc, là, on a eu deux plans d'action. Les choses changent, mais il y a encore beaucoup de modèles résidentiels qui répondent pas aux besoins des personnes autistes.
Le néophyte dirait, oui, mais les employés qui sont habilités à aider un groupe de clientèle sont souvent capables d'aider plusieurs types de clientèle atypiques, mais c'est pas ça le problème.
Ben oui, le manque de formation est un problème.
OK.
Parce que effectivement, les gens, tout dépendant du modèle résidentiel. OK, c'est un petit peu variable d'une région du Québec à l'autre, mais c'est assez semblable généralement. Il y a des résidences de type familial, des résidences intermédiaires, puis des résidences à assistance continue.
Oui, c'était ma prochaine question. On les établira un après l'autre. Ouais.
Là, les gens qui travaillent dans ces milieux résidentiels-là ont des profils différents selon le milieu résidentiel.
Okay.
Et souvent, justement, c'est un manque de formation du personnel qui travaille dans les résidences qui font que pour travailler avec des personnes autistes, il faut utiliser des méthodes d'intervention qui sont très spécifiques aux personnes autistes. Donc, si les personnes ne connaissent pas ces méthodes-là, s'ils lisent pas les plans d'intervention, bien souvent, c'est pour ça qu'on finit avec des résidences qui répondent pas aux besoins des personnes.
Ouais. Est-ce que je me trompe aussi en disant que c'est probablement l'interaction entre les locataires qui est aussi un problème?
Si les profils sont mal jumelés,
c'est
effectivement, ça peut
ouais.
être un problème.
Ouais. Ouais. Bon, parlons justement les ressources intermédiaires, les ressources de type familial. Pouvez-vous m'expliquer et me définir chacun?
Okay. Une résidence de type familial, ça le dit, c'est quelqu'un, vous, moi, n'importe qui ouvre une résidence,
okay.
Qui a un contrat avec son centre de réadaptation, son CIS ou son CIUS maintenant, et qui héberge de 4 à 8 personnes, là, je vous donne un chiffre qui est une moyenne, là, mm-hmm. et qui héberge des personnes, dans notre situation, des personnes qui ont un trouble du spectre de l'autisme.
OK. Donc, et ça, c'est hébergement temps plein, là, c'est pas du répit.
Non, c'est pas du répit,
d'accord.
c'est à temps plein,
ouais.
les personnes sont là. Par contre, les parents peuvent dire, bon, moi, je vais chercher mon enfant une fin de semaine par mois.
Oui, OK.
Je vais chercher son enfant, il l'amène à la maison. Ça, le personnel, c'est la personne elle-même qui décide ou non de s'engager du personnel pour la soutenir au quotidien.
J'imagine qu'elle a approuvé l'expertise de son entreprise, là, que les clients, que les comment on les appelle?
Les résidents.
Les résidents, voilà, sont entre bonnes mains.
Ben, la personne prend une entente avec son CIUS ou son CIS et doit répondre à certains engagements, mais n'a pas nécessairement la formation nécessaire pour s'occuper de personnes autistes.
Ah, OK.
Et les personnes autistes qui vont en résidence de type familial sont les personnes avec des besoins légers.
Oui, OK, je comprends. Okay.
Résidence intermédiaire, c'est un peu le même profil, mais on rajoute des heures avec un éducateur selon les besoins des personnes à la résidence. Fait que si, par exemple, on dit, ben moi, j'ai 6 personnes autistes qui sont tous à l'école, j'ai besoin d'un éducateur pour faire les retours à la maison.
Quand vous dites les retours, on parle du transport?
Après l'école, non. Pour une fois qu'ils sont à la résidence. Mettons, les 6 reviennent de l'école à
4
heures.
Ouais.
Fait que là, elle peut avoir un éducateur avec elle pour l'aider dans certaines activités
okay.
jusqu'au dodo.
OK, parfait.
Je vous dis un exemple.
Ouais.
Ça peut prendre plusieurs formes. Et les résidences à assistance continue, ce sont du personnel du centre de réadaptation qui ont des corps de travail, là, comme à l'hôpital, là, 8 à 4, 4 à minuit, minuit à 8.
Ouais.
Et là, souvent, oui, on parle d'éducateurs. Mais si vous allez voir le programme d'éducation spécialisée dans les cégeps, on ne parle pas d'autisme pendant 3 ans de temps. Là.
Oh, OK.
Fait que, tu sais, on en parle à travers de tout plein d'autres besoins. Donc, souvent, les personnes qui vont arriver en RAC n'ont pas nécessairement les connaissances nécessaires. Ils vont faire l'apprentissage, oui, mais au moment où ils arrivent, ils n'ont pas nécessairement l'apprentissage de fait, les connaissances nécessaires pour travailler avec des personnes autistes.
Résidence en assistance continue, j'imagine, c'est du temps plein?
C'est du temps plein.
Ouais,
tous les modèles résidentiels, c'est du temps plein. Comme je disais, même en résidence assistance continue, si le parent dit « je vais aller chercher mon enfant une fois par mois »,
ouais. Sauf que s'ils vont à l'école, je veux dire, il y a comme un petit... On n'a pas besoin d'éducateurs le jour.
Bien, ça dépend. Parce que le dossier scolaire, ça, c'est un autre dossier. Mais il y a beaucoup, souvent, en RAC, ce sont des jeunes avec des grands besoins. Okay. Puis, ils ne sont plus nécessairement à l'école. Ça peut arriver qu'il ait été expulsé de l'école ou suspendu. Puis là, on parle des enfants. Les adultes, c'est ils vont aller en milieu socio-professionnel. Ça peut prendre plusieurs visages aussi. Mm-hmm. Plateau de travail, centre de jour, etc. Mais encore une fois, il y a des listes d'attente partout. Puis les services ne sont pas égaux à grandeur du Québec. Fait qu'il y a certains endroits que les personnes n'ont pas du temps plein comme activité socio-professionnelle.
J'ai vu qu'il y avait des logements privés avec des services de réseau de la santé, des services sociaux?
Ben oui, il y a beaucoup. Ça, je ne connais pas assez la situation dans toutes les régions. Là, il y a des projets qui démarrent, qui sont des projets privés. Comme nous, ici à Québec, on a un groupe de parents qui a un projet résidentiel. C'est un groupe de parents que justement est un petit peu tanné d'attendre après le réseau public. Ce que le réseau public avait à leur offrir ne correspondait pas aux besoins de leur enfant. Ouais. Fait qu'eux ont décidé de mettre sur pied un projet résidentiel. Puis ça commence à apparaître dans plusieurs régions du Québec. Sauf que c'est long négocier des ententes, c'est long faire. Puis ça, encore une fois, ça retombe sous les épaules des parents.
Mais ça, Lily Plourde, c'est une bonne ou une mauvaise approche? Parce que je remarque, il y a des lieux qui sont mis sur pied par des parents, il y en a d'autres qui sont mis sur pied par des fondations, il y en a d'autres qui sont probablement mis sur pied par le soutien public. Donc, il faut qu'il y ait de la coordination. C'est une bonne idée que tout le monde se lance chacun dans sa direction?
Moi, je vous dirais que les parents le font parce qu'ils n'en peuvent plus, comme pour bien d'autres choses, en désespoir de cause. Par contre, le projet de Québec, nous, ce qu'on veut, c'est qu'il fasse école parce que c'est un projet qui est monté spécifiquement pour les personnes autistes. Fait qu'on espère qu'une fois qu'il va être sur pied, que les jeunes vont être dedans, qu'on va démontrer que c'est ce genre de service-là que ça prend, c'est ce genre de service résidentiel-là que ça prend pour répondre aux besoins des personnes autistes. Parce que des fois, là, ça ne coûte pas plus cher mieux, faire différemment et mieux. Okay? Ce n'est pas nécessairement une question d'argent, c'est une question d'implanter les modèles. Puis le projet de Québec qui s'appelle Intégration Espace Vie TSA, c'est vraiment un projet extraordinaire qu'on espère vraiment qu'on va démontrer avec ça. Je dis « on », là, je ne suis pas là-dedans. Mais on espère vraiment là, que ça va démontrer qu'en ayant l'environnement et les services nécessaires, on va atteindre des meilleurs résultats pour le développement des jeunes.
Oui. Maintenant, est-ce que ce projet-là, parce que plusieurs pourraient dire ouais, mais si on peut inclure les deux clientèles, ben ça va sauver des coûts, ça va accélérer l'intégration, puis en même temps, c'est peut-être une bonne idée que l'un puisse cohabiter avec l'autre pour apprendre de l'autre. Est-ce que c'est envisageable de continuer à mixer des clientèles?
Ça dépend toujours de ce qu'on fait comme mélange. Je vous dirais que les personnes autistes, des fois, c'est difficile de les mélanger avec d'autres groupes. Des fois, ce qui marche en autiste, ce qui marche avec les autres ne marche pas en autiste. Ce qui marche en autiste marche avec tout le monde. Je vous dirais qu'on pourrait mettre dans une résidence pour personnes autistes une personne avec une déficience intellectuelle qui correspond un petit peu au profil. Mais il manque tellement de ressources.
Ouais, ouais.
Moi, ici, j'ai des parents que ça fait 12 ans qu'ils attendent pour un milieu résidentiel.
C'est énorme.
Ouais. Tu sais, fait qu'il faut développer des modèles. Il y a déjà des modèles existants qui peuvent répondre aux besoins pour certaines personnes. Il y a des résidences de type familial qui font absolument l'affaire pour les personnes autistes.
Mm-hmm.
Tu sais, c'est juste que quand on tombe dans le pointu, dans le précis, dans des profils qui ont fait moins comment réagir, comment intervenir. C'est là qu'il faut vraiment développer des modèles qui sont précis et qui répondent aux besoins des personnes. Fait que la mixité, on parle pas, tu sais, j'entends souvent, on crée des ghettos. Ça dépend, c'est sûr qu'on parle pas de déficience, de handicap physique, là. On parle de personnes autistes avec des grands besoins, souvent dans le cas des milieux résidentiels. Fait qu'on parle pas de ghetto, on parle d'aménager un environnement qui va répondre aux besoins puis qui va permettre à la personne de s'épanouir et de continuer de faire des apprentissages. Parce que souvent, là, quand il y a des problèmes de comportement qui apparaissent à l'âge adulte, parce que les milieux résidentiels et les milieux socio-professionnels répondent tellement pas aux besoins, soit la personne est trop oisive, on développe des comportements qui n'étaient pas là avant. Puis nous, ici, on parle jamais d'agression. Hein? On parle d'une mauvaise méthode de communication. Parce que donnons les services nécessaires aux personnes, puis ils vont moins se désorganiser. Fait que c'est pour ça que nous, on prône beaucoup, beaucoup les services spécialisés typiques aux personnes autistes.
Bien, on va suivre le projet, en tout cas. Bravo pour l'initiative, Lily Plourde, qui est directrice générale de Autisme Québec. Puis, oui, effectivement, vous avez raison. La semaine dernière, on recevait des gens qui ont démarré une maison du côté de Anjou, ici à Montréal. Eux ne voyaient pas comment faire autrement que d'accueillir une clientèle mixte, justement, pour avoir un peu plus de soutien, parce que ben c'est peut-être un peu mieux vu. Plus on accueille de monde, plus des fois les bailleurs de fonds sont contents. Mais j'entends tout à fait ce que vous dites. Lily Plourde, merci beaucoup.
Ça me fait plaisir.